Rabbit.
Groovy.
Bonsoir, François Stressart et la belle équipe pour la récré du samedi soir. Alors vous dînez ou vous montez le galibier sur votre vélo d'appartement, branchez les papous et tout vous paraîtra encore plus agréable. Au menu de nos jeux, quelques heures de vacances volées sur le quotidien et un échange insolite entre Patrick Beignet, Jacques Jouet et Jean-Bernard Puy, Eisenstein à Jean-Luc Godard.
Chers camarades, Yvon Lukovitch Godardov, si je vous écris, moi, c'est que l'on vous considère, vous, l'auteur de Piotr le Dingue, comme celui qui aurait représenté le mieux la petite révolution bourgeoise de 68 en France, ce n'est pas rien.
Et puis, quand un papou lit un autre papou, la chronique d'Eval Massy sur le nouveau Delbourg et l'inventaire collectif « C'était mieux avant » par quatre nostalgiques, dont Lucas Fournier.
Je me suis regardé tout nu dans la glace comme chaque matin et je me suis dit peut-être que c'était mieux avant, mais je n'ai pas gardé de photos de l'époque.
Et pour conclure ce joli samedi, la textée de Jacques Jouet. Voilà, nous sommes ensemble jusqu'à 21h, une émission à podcaster sur franceculture.fr pour une réécoute à l'heure et au jour de votre choix. Merci de votre fidélité amicale. Bienvenue à ceux qui nous découvrent en ce samedi soir. Pour les échanges, rejoignez la bande des auditeurs sur notre page Facebook, si ça vous dit. Ils s'aiment sans doute. Pourtant, il arrive que le temps d'une brève escapade, l'un parte sans l'autre. Les vacances ne se partagent pas toujours. Alors, on envoie un SMS, bien arrivé, fait pas beau, pas grave, bisous. Ou mieux, au papou, quand l'un part, il écrit une vraie lettre pour tout raconter en détail. Et c'est votre cas, Lucas Fournier. Qui êtes-vous ?
Je suis Henri Casanier.
Oui.
Et j'écris à ma bien-aimée.
Bah, c'est gentil de penser à elle. Oui. Donc il est parti tout seul.
Il est parti tout seul.
C'est des choses qui arrivent.
Il n'aime pas ça, pourtant. Ma chérie, je passe de bonnes vacances. Bref, certes, une demi-journée de RTT, c'est peu.
Ah oui, ça.
Oui, mais psychologiquement, j'ai du mal à te laisser seul trop longtemps à Paris, dans cette ville pleine de tentations. Vacances brèves, mais tellement intenses. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, disait Dubélé, et je me sens très Joachim ce soir. Jules Verne avait inventé le tour du monde en 80 jours. Il y aura dorénavant, grâce à moi, le tour d'Europe en 80 minutes. En une demi-journée de RTT, j'ai fait le tour de l'Europe. Quel voyage! J'ai quitté le bureau juste en sortant de la cantine, direction Milan, enfin la rue de Milan. J'ai senti derrière moi le souffle de Stendhal. Le 15 mai 1796, le jeune Bonaparte fit son entrée rue de Milan à la tête de cette jeune armée qui venait de passer le pont de Lodi et d'apprendre au monde qu'après tant de siècles, César et Alexandre avaient un successeur. Cette jeune armée, je l'ai vue. C'était trois soldats de l'opération Sentinelle. Je les ai suivis jusqu'à la rue d'Amsterdam où il y a des marins qui boivent, mais, ou comme dit Voltaire, les mœurs, la simplicité, l'égalité sont les mêmes qu'à Sparte. Et la sobriété plus grande. Enfin, tu parles d'une sobriété, j'ai compté quand même pas moins de 6 bistrots dans cette artère batave. Alors j'ai payé un coup aux soldats de Sentinelle. La rue de Moscou débouche à l'angle du café. Ah, rue de Moscou, la rue des 1003 clochers de Sandrard. Mais ce qui clochait justement, c'est que des clochers, je n'en ai pas vu. Mais en remontant vers la rue de Saint-Pétersbourg, on a tous en nous quelque chose de Nicolas Gogol, j'ai vu la perspective, peut-être pas Nevski, mais au moins exquise, qui donne sur la place de Dublin. Dublin, oui, et là j'étais chanceux. Il y avait une pharmacie, comme celle de Jean de Dublin, où Léopold Bloom va acheter son savon. Du coup, j'ai acheté un gel douche. Je me suis senti Joyce, enfin Joyce. Alors j'ai poursuivi vers la rue de Bucarest, et Apollinaire a raison. La rue de Bucarest est une belle rue où il semble que viennent se mêler l'Occident et l'Orient. Il y avait une crêperie normande et un kebab. L'Occident et l'Orient, j'ai goûté les deux. Déjà, je fus rue de Constantinople, mais qui convoquait ? Théophile Gautier, Nerval, Loti. Quelle étrange rue que la rue de Constantinople, splendeur et misère, les larmes et la joie, beaucoup plus que n'importe où ailleurs, comportement arbitraire. Je le confirme, une agente de la ville de Paris mettait des contraventions uniquement aux voitures noires. Je lui ai dit que c'était arbitraire. Elle m'a dit « arbitraire, arbitraire, est-ce que j'ai une gueule d'arbitraire ?» Je n'ai pas répondu, je ne voulais pas d'ennui avec Erdogan.
Non, vous avez raison, oui.
J'ai monté d'un pas latin la rue de Rome, j'ai tourné vers la rue de Naples. Flaubert me souffle Naples, si vous causez avec des savants, dire Parthénope. Je vais écrire à la mairie pour faire rebaptiser la rue. Ensuite, c'est là que tout se complique, ma chérie. Débouchant rue de Vienne, je me suis dit, Vienne la nuit, sonne l'heure, et j'ai foncé vers la rue de Londres. C'était un soir de demi-brume. Un voyou qui ressemblait à mon amour vint à ma rencontre, et le regard qu'il me jeta me fit, oui. J'hésite à poursuivre, enfin si, je l'ai suivi. Fugitive beauté dont le regard m'a fait soudainement renaître. En ce moment, nous sommes dans le métro d'où je t'écris direction Station Argentine. On est clairement au-delà de l'Union Européenne. Je songe à la douceur d'aller vivre là-bas. Moi, je ne hais pas le mouvement qui dérange les lignes du métro, non. Enfin, tout cela risque de nous mener très loin. Du coup, j'ai posé une demi-RTT pour demain matin. Ne m'attends pas pour dîner. Il reste de la pizza dans le frigo. Henri.
Il n'y a même pas un petit bisou, un petit truc un peu affectueux.
Attendez, je suis entre deux stations de métro à taper sur mon portable. Je fais ce que je peux, là.
Bon, bah, Lucas Fournier, quand on lui demande de faire un exercice, papou, il descend en bas de chez lui et il marche un petit peu. Et les idées lui viennent à travers les rues. Hein. Et une remarque, Gérard ? Non.
Non, j'aurais fait la même remarque que vous. C'est magnifique de vivre et travailler au pays.
Et ben voilà. Et je crois que, Violaine,
oui.
Vous êtes Madame Casani, enfin, Madame officiellement, vous portez le même nom ou pas,
oui,
je sais
je
pas.
Oui, je suis encore Madame Casani.
Elle a un petit prénom, non ?
Très longtemps, Julie Casani.
Julie, qu'est-ce qu'elle pense
voilà.
de cette lettre ?
Bah, elle lui répond. Oui. Donc, mon cher Casani, ta lettre, je l'ai foutue.
C'est tendre.
Ta lettre, je l'ai foutue à la poubelle. Elle va échouer sur le reste de pizza. Ta demi-journée de RTT est pleine de taches d'huile et ton nom dégouline de sauce tomate. Reste donc en Argentine à faire des passos doblés avec tes personnages de fiction. J'en ai par-dessus la tête de tes fantasmes d'écrivain raté, de tes rêveries de premier de la classe, si fière de pouvoir citer des poésies par cœur. J'en ai ma claque de ton imagination ridicule qui te fait prendre des vessies pour des lanternes. Moi, j'y ai cru à notre histoire. Je pensais qu'on avait le ticket tous les deux. Mais je me rends bien compte maintenant, avec toi, ça ne va pas plus loin jamais que le bout de la ligne de métro. Nous arrivons au terminus de notre liaison, qui n'est plus que ferroviaire. C'est bien là le problème. Je ne vois pas l'ombre d'une correspondance à l'horizon. Nous n'irons jamais ensemble au métro Plaisance. C'est terminé. Ni au métro Jasmin, ni au métro Bonne Nouvelle. Toutes sortes de choses complètement étrangères à ta psychologie étriquée. Tu portes bien ton nom, Casanier, je te le laisse. Je te souhaite un bon voyage dans les méandres nébuleux de tes ratiocinations littéraires. Peut-être nous croiserons-nous un jour au métro Glaciaire. Je ne te dirai pas bonjour. Signé ton ex, bien heureuse de l'être.
On sent quand même qu'il y a eu pas mal d'années entre eux.
Vous comprenez pourquoi je ne voulais pas la laisser toute seule.
Ah bah oui, oui. Enfin, il a l'air tout déconfié quand même. Oui. Il y avait un reste d'amour de son côté, à mon avis. Mais un reste, comme vous avez dit, ça finit à la poubelle.
Voilà.
C'est la première lettre qu'elle m'envoie en 20 ans.
Non.
Si.
Lucky Luke, samedi prochain, nous aurons le don d'ubiquité, à la fois sur les ondes pour un samedi soir papou et en même temps sur la scène du studio 104 de la Maison de la Radio pour l'enregistrement, pas en direct, l'enregistrement à 20h30 d'une soirée mauvais genre qui célébrera les 20 ans de l'émission du même nom. Pour y assister, c'est facile. Vous réservez sur le site maisondelaradio.fr, Maison de la Radio tout attaché. C'est facile, mais indispensable. Avec moi, côté papou, samedi 25 novembre, Violaine Schwartz, Lucas Fournier, Gérard Mordilla, Eva Almassi, Jacques Jouet et Serge Joncourt. Vous êtes tous les bienvenus. On poursuit dans l'univers épistolaire, un bon moyen d'endosser toutes sortes d'habits pour de drôles de jeux de rôle, avec Jean-Bernard Pouilly, Patrick Beignet et Jacques Jouet. Jean-Bernard Pouy, il a adoré le cinéma et il prétend que ça ne l'intéresse plus et qu'il ne fréquente plus les salles obscures, ni même son écran de télé, soit ça ne l'empêche pas d'imaginer une correspondance insolite entre deux grands réalisateurs pour lesquels il a une admiration certaine. Et il sera relayé par Patrick Beignet et Jacques Jouet. Qui écrit en premier Jean-Bernard Pouy?
C'est une lettre de Sergueï Eisenstein à Jean-Luc Godard.
Ah, c'est le cuirassé Potemkin, Eisenstein.
Oui.
Hein, le film.
Vous vous souvenez de votre enfance, c'est bien.
À Jean-Luc Godard. C'est plausible?
Ça pourrait.
Ça pourrait. Oui. Hein,
mais je pense qu'Eisenstein est toujours vivant, il a 142 ans. Il est
oui.
Cher camarade Ivan Lukovitch Godardov, si je vous écris, moi, le cinéaste que l'on considère comme celui qui a réussi à mettre en image la Révolution d'Octobre, c'est que l'on vous considère, vous, l'auteur de Piotr le Dingue, avec la sublime Anna Karenina, et de la chinoise hitléro-trotskiste, avec la russe blanche Vyazemsky, comme celui qui aurait représenté le mieux la petite révolution bourgeoise de 68 en France, c'est-à-dire là où le cinéma est né, bien sûr, ce n'est pas rien, et je ne l'oublie pas. Vous avez même fait en sorte d'arrêter le Festival de Cannes, une année où l'un de mes compatriotes aurait peut-être pu avoir la palme. Et je vous en remercie. Ce n'est pas très grave, mais vous passez à présent pour le cinéaste le plus révolutionnaire, et moi, comme l'un des cinéastes les plus classiques, et qui dit classique pense ringard. Moi, on m'étudie en CM1, et vous, à l'école normale supérieure. Moi, je sens la naphtaline, et vous, l'air frais qui vient des barricades prolétariennes. Je le supporte assez mal, il faut bien le dire, ça me fait bouillir le sang, ce sang que la Russie a versé pour combattre les Suédois, les Mongols, les Tatars, les Nazis, les Chinois, les Amerlots, c'est-à-dire tout le monde. Vous n'avez attaqué que le cinéma bourgeois de votre pays, confit dans la graisse d'Ouagavé, et notamment ce faiseur néo-pompier de François Truffauski. Et depuis, les attaques que vous subissez ne viennent que des réactionnaires restés bloqués à la découverte d'OTAN l'emporte le vent et de gens qui détestent inexplicablement la Suisse. Je sais que vous continuez à être considéré comme le plus con des Suisses pro-chinois, mais si c'est vrai, n'y faites pas attention. La Suisse est un merveilleux pays où beaucoup de révolutionnaires, et pas des moindres, comme Lénine, se sont réfugiés, sans doute à cause du chocolat, et des montres dont la solidité n'a d'équivalent que celle de la pensée de Vladimir Ulianov. J'ai fait une seule erreur dans ma vie, celle de ne pas rester en Suisse moi-même, du côté de l'Assara, où je suis allé pour trouver du bon gruyère, et surtout des Sugus, le meilleur caramel du monde. Au lieu de ça, plus tard, j'ai été m'assécher au Mexique, où la vie est dure, où le piment est dur, où le régime est dur, même pour les bananes, et où, manifestement, il fait beaucoup trop chaud et moite, encore plus chaud et moite qu'en Crimée, où, pourtant, il fait singulièrement chaud et moite. En plus, la Suisse est neutre, ce qui est très reposant pour des gens qui atteignent la retraite. C'est d'ailleurs à cause de la pensée sublime qui vous a cruellement manqué. Deux maîtres tels que Lénine ou Staline, que vous n'avez pas réussi à monter sur le podium révolutionnaire. Vous n'avez eu pour vous aider à grandir que des ennemis lamentables, des fantoches d'Akepi, des banquiers ringards. Nous avions le tsar en personne, des ganaches galonnés, Raspoutine et les cosaques traîtres aux valeurs des vrais cosaques, ceux du Don et des bords de la Volga. Nous avions à prendre le palais d'hiver. Vous n'avez brûlé que quelques poubelles à l'intérieur d'une bourse déserte. Nous avons l'armée qui nous tirait dessus. Vous aviez les gaz lacrymogènes. Ah, quel plaisir, car nous, membres de la Grande Russie, nous avons toujours adoré pleurer. Surtout en écoutant la balalaïka geindre, quand le crépuscule mauve tombe sur la toundra et que passent les cigognes. Mais, fi des comparaisons oiseuses, le choc de votre premier film a été autant prédominant que mon cuirassé Potemkin pour Le Monde, même si Ivan Polovitch Belmondov est quand même, in fine, moins impressionnant que mon Nicolas Tcherkassov, plus tard mon immortel Alexandre Nevsky. Je ne comprends pas pourquoi. Le plan montrant la jeune Jean Serbegova descendant les Champs-Élysées en vendant le torchon capitaliste New York Herald Tribune est quand même moins sublime que celui montrant mon simple landau dévalant dans l'immense escalier dévasté d'Odessa. Mon film sur la révolte du cuirassé passe pour annonciateur de la révolution d'octobre. Le vôtre annonce que les Trente Glorieuses et Raymond Barre. C'est ce qui nous sépare. Vous devez vous demander pourquoi je suis si dur avec vous. C'est vrai que vous pouvez me reprocher qu'à un moment de ma vie, j'ai obéi à Staline. C'est exact, mais pas longtemps. Il m'a vite offert des billets pour l'Amérique du Sud. Alors que vous, si vous êtes rapproché de Mao, il ne vous a pas demandé d'aller à Pékin filmer la Cité Interdite. En plus, quand vous avez voulu prôner la révolution pour votre groupe, vous avez pris le nom de Dziga Vertov, mon ennemi personnel. Ça a été pour moi la preuve que vous me détestiez. Je suis sévère avec vous parce que je vous respecte. Car vous avez compris la grammaire que j'ai réussi à imposer. Vous avez respecté mes choix sur l'importance du montage, sur l'utilisation du gros plan et sur le refus du champ contre champ. Merci, bravo. Certes, vous n'êtes pas la personnalité du cinéma français que j'adore le plus. Mais vous arrivez en deuxième position. La première étant toujours réservée à l'impérial Louis de Funès qui, qu'en Russie, on le comprend absolument pas, mais qui nous subjugue totalement. Camarade Godardov, je vous serre la main, Sergueï Eisenstein.
Pour quelle lettre extraordinaire, hein.
Ben oui, il faisait du cinéma muet, mais il faisait des lettres très parlantes, hein, c'est étonnant.
À Patrick Beignet, ça vous ressemble assez, ce portrait de Jean-Luc Godard. Vous voulez bien empoigner le rôle et répondre à Monsieur Eisenstein?
J'empoigne.
Ouais. Vous avez été touché par la lettre ou agacé?
Plutôt agacé.
Ah oui, ça ne m'étonne pas.
Ah oui, ça ne m'étonne pas du tout. Cher Sergueï Mikhaïlovitch, j'ai toujours eu coutume de juger les gens sur la façon dont ils utilisent les lieux communs. Je regarde s'ils les maîtrisent ou bien s'ils se laissent manipuler par eux. Je me suis toujours trouvé bien de ce classement des êtres humains. Selon ce critère, cher Sergueï Mikhaïlovitch, je suis hélas obligé de vous ranger dans la même catégorie que Claude Lelouch, avec qui je vous découvre tant de points en commun. Vous aimez les lieux communs, mais c'est pour vous y vautrer. Je choisis un exemple au hasard. Qu'est-ce que la Suisse pour vous? La Suisse, c'est le bon gruyère de la Sarah. La Suisse, c'est aussi, pour vous citer encore, des banquiers ringards. La Suisse, c'est toujours un pays neutre, ne l'oublions pas. Et c'est sans doute surtout, je vous cite une dernière fois, du chocolat et des montres. Vous me direz que dans le domaine de l'horlogerie, vous m'avez épargné le coucou. C'est déjà beaucoup, je dois peut-être m'estimer heureux. Mais tout de même, la Suisse est bien autre chose, Sergueï Mikhaïlovitch. Il y a les lacs, il y a les montagnes, il y a Roger Federer. Si jamais vous m'écrivez encore, tâchez de vous améliorer de ce côté, cher grand homme. Helvétiquement vôtre.
C'est très bien envoyé, ça, Patrick Beignet.
Il ne s'en remettra pas.
À mon avis, oui, une réaction d'Eisenstein à la lettre.
Je suis complètement d'accord, mais il n'y a pas de carte postale de Roger Federer encore.
D'abord, on ne dit pas Roger, on dit Roger.
Roger, mais pourquoi en Suisse on dit Roger?
Parce que sa maman lui a donné un prénom américain, Roger.
Ça, c'est bien suisse, ça, tiens.
Alors, on a un autre intervenant, parce qu'il a été question quand même de Louis de Funès dans cette histoire avec Eisenstein. N'est-ce pas, Jacques Jouet?
Oui, il a été question de Louis de Funès.
Est-ce que vous êtes le grand, l'immense Louis de Funès?
Le grand, je ne sais pas, l'immense, je l'ignore. Mais je suis Louis de Funès, oui.
Ben, enchanté, respect.
Un tout petit moment.
Et alors, vous écrivez à qui?
Ben, j'écris à Jean-Luc Godard, figurez-vous.
Ah, ben, Patrick Beignet, cela vous concerne?
Mais je n'avais pas connaissance de la lettre que Jean-Luc Godard
a
écrite à Eisenstein, je précise.
Oui.
Cher Godard, je m'adresse à vous. Il y a une raison. Je vais vous la dire. J'ai un rêve. Je veux tourner avec vous. J'ai vu À bout de souffle. Ça me l'a coupé. Vraiment. J'ai une idée. J'ai un projet. Eisenstein, il m'admire. Il vous estime. On me l'a dit. Il n'y a que trois révolutionnaires. Lui, moi, vous. Réunissons-les. Réunissons-nous. Réunissez-nous. Syracuse. J'aimerais tant voir Syracuse. Réunissez-nous. Personnage. Une scénariste. Moi, je suis son mari. J'ai pas de métier. Il y a un tournage. Le réalisateur, c'est Eisenstein. En personne. Il tourne l'Iliade. La productrice est américaine. Elle est riche. Elle a une belle maison. Elle a une belle auto. Elle me pique à ma femme. Ma femme, je la méprise. Elle me tape sur les nerfs. À me demander si j'aime ses biceps. Si j'aime ses cuisses, si j'aime ses genoux. Il tourne l'Iliade, en noir et blanc. Eisenstein. Ma femme ne le comprend pas. Moi, je mets des perruques. Je bouquine tout nu sur la terrasse. La productrice fait le discobol avec une boîte à films. On parle 5 langues. Godard, vous jouez dans le film. Un tout petit rôle. L'assistant, Godard. L'assistant d'Eisenstein. Oh, je vois ça d'ici. Je meurs à la fin. On le fait, Godard? Allez, on le fait. Et si c'est pas l'Iliade, on fait le Capital.
La bande originale du film de Godard, Le Mépris, façon Vincent Malone. Quand un papou lit un autre papou, alors les papouilles sont à la fois écrivains et grands dévoreurs de livres, et quand ils aiment, ils partagent leur plaisir de lecture. Eva Almassi, comme nombre de papous, a lu le nouveau roman de Patrice Delbourg avec bonheur, Une douceur de chloroforme, publié au Castor Astral. Alors Eva, raconte.
Quand vous commencez à écrire un article, il faut trouver une attaque. Quand vous commencez à écrire un papier sur un livre de Patrice Delbourg, cette attaque est souvent une attaque cardiaque, voire une attaque cérébrale. Ces héros, déjà qu'ils ne sont pas bien portants en général, s'imaginent être atteints d'un tas de maladies. Celui du roman qui nous occupe, Jim Baltimore, personnage central d'une douceur de chloroforme, ne fait pas exception à la règle. Plus hypochondriaque, tu meurs. Or, rien n'est aussi contagieux que l'hypochondrie. Et donc, lecteur, tu liras ce livre à tes risques et périls. Périr, j'ai failli dès l'ouverture. C'est que je pratique la bibliomancie. Je lis mon avenir, non pas dans le marc de café, mais dans un bouquin. Alors, c'était sous les yeux de François Stressart pour témoin, n'est-ce pas? Je ferme les yeux, j'ouvre le livre au hasard et je pointe une phrase, toujours les yeux fermés. Je dis « Livre mon livre, délivre-moi le secret de ce qui m'arrivera ». Et là, dans le roman de Patrice Delbourg, je tombe page 84 sur un collapsus, une chute dans l'escalier, une noyade dans la Méditerranée et une jaunisse mal interprétée. Tout ça dans la même phrase. Merci camarade écrivain. De quoi m'identifier encore plus avec le héros, le susnommé Jim ou Jonathan Baltimore, qui lui consulte un mage de foire, un fakir de fête foraine, qui ne lui promet rien de bien reluisant non plus, et ceci en remontant à l'instant de sa conception et même plus haut, comme Stern dans Tristram Shandy, à l'accouplement des parents, assez mal réussi dans les circonstances. Remarquez, dès le titre, on est prévenu, une douceur de chloroforme. Est-ce de bon augure? Sachant que les mêmes mots vont clore le roman, allez-vous craindre le pire? Mais non, vous n'y êtes pas. Dans le roman, ce qu'il y a de meilleur, c'est le pire magnifié, le pire scruté, sous toutes les coutures, dépeint sous toutes les lumières, les 150 nuances du crépuscule d'une existence humaine. Depuis le livre de Job, vous n'aurez pas lu de lamentations mieux écrites. Voyez-vous, ça ne m'étonne pas. C'est le Job de Patrice Delbourg. Il est poète. On est à Paris, le Marais, le quartier de l'Horloge, la Tour Saint-Jacques, la place des Vosges, la rue aux Ours, la pointe de l'île de la Cité. Ce rêveur qui arpente le cadastre en tous sens, de loin, vous le prendriez pour l'auteur lui-même. Ils ont le même chapeau, un chapeau de feutre topé et pas mal d'idées en commun sous le chapeau. Ils aiment les mêmes vins, les mêmes écrivains. Ils partagent surtout leur détestation. Lui, censé être atteint d'une maladie rare, qui l'empêche de ressentir la douleur, en fait ressent tout et entre deux flashs d'infos tragiques et sanglants qui lui apprennent ad nauseam que le monde n'est pas mieux loti que lui, ce flâneur en désarroi sur les boulevards de la déglingue, le cœur pendu comme une ampoule nue dans la poitrine creuse, se prépare très activement à devenir un gisant convenable. homme sans cavité, dans son posthume de dimanche, il croise parfois une passante joliment vertébrée ou parmi les belettes aguicheuses des galeries marchandes, une petite tueuse à badge. Il n'en faut pas plus pour entrer dans le coma des mortels entre deux visites du cimetière pour faire ses exercices de stèle, puis choisir ses insustes dans son silo habile. Le personnage Baltimore use de formules comme Delbourg en personne. J'espère que c'est pas Kif Kif Bourico quand même, car Baltimore croit, à tort en ce qui me concerne, que les femmes exècrent en général les calembours et homophonies approximatives, indices d'un auto-érotisme malotru. D'ailleurs, il est beaucoup question de plaisir solitaire ou de plaisir tarifé et donc solitaire encore plus.
Il y a tous les grands thèmes de Delbourg dans ce livre, il faut bien le dire.
Surtout, ne rien mettre de soi-même dans une aventure d'écriture, avertit l'auteur. Mais il échoue, bien sûr, pour notre plus grand bonheur. C'est qu'il est poète, on l'a dit, et généreux dans ses ivresses textuelles, un poète Shirazade, quoi, et qui ne peut s'empêcher de donner et de donner beaucoup. Personnellement, je m'abonne à sa chaîne Météo. Pour son bulletin du jour, écoutez-le. C'est l'automne, saison inquiète au bord des ténèbres. Un pâle soleil enroué a déjà du savon dans l'œil. Sous les nuages d'un gris laiteux, dans le frisli d'une brève averse, la place de la Bastille s'éclaircit la gorge. Un éclair en italique zèbre la carotte du bar-tabac. Un ciel ras et sourd plane sur les trottoirs. Question crève-cœur, c'est tous les jours dimanche. Atmosphère, atmosphère. Est-ce que Patrice Delbourg a une gueule d'atmosphère? Oui, assurément. Une gueule, une plume surtout.
Tout le monde acquiesce autour de la table.
Une gueule, une plume surtout et un vocabulaire somptueux. Il devrait payer une taxe de luxe si ça existait encore. Lui qui n'aime que Jules Laforgue, Tristan Corbière et autres Darien, Bernanos, Léon Daudet, Alphonse Allais, il va m'assassiner pour la comparaison. Mais c'est beau et paradoxalement nostalgique dans ses errances, comme un Modiano qui aurait avalé un décor.
À lire, une douceur de chloroforme de Patrice Delbourg au Castor Astral.
Après coup, je regrette la kitchenette et les voisins, les heures de pointe, les parcs-mètres, les sacs poubelles dans les communs. C'est pas que j'aime les crémaillères sur le palier jusqu'au matin, mais là vraiment c'est isolé pendant la nuit, on n'entend rien. J'aimais bien la campagne, une à deux fois par mois. Au quotidien l'angoisse me gagne et je ne m'y fais pas. Il faudra des années pour que je m'habitue au maïs, au navet, à perte de vue. Je voulais pas mettre des voiles, je voulais juste prendre l'air. Je voulais seulement voir les étoiles cachées derrière les réverbères. J'étais pourtant persuadé qu'on avait les mêmes idéaux, la même envie d'évoluer dans le respect de l'artichaut. Mais l'image d'Épinal prend l'allure d'un exil. Des fois je voudrais tout incendier pour qu'on retourne en ville. J'abandonnerai pas mon idée d'un jardin extraordinaire, et même j'aménagerai le grenier pour y loger la terre entière. Mais t'as bien vu comment ça se passe. Au début y'a tous les copains, et puis les visites ça se passe parce que quand même c'est vachement loin. Je voulais pas mettre les voiles, je voulais juste prendre l'air.
Tu prends la nationale, tu mets 4 heures.
Je voulais seulement voir les étoiles cachées derrière les réverbères.
Ouais. La kitchenette et les voisins par Presque Oui. Lucas Fournier, il y a quelque temps, avait publié un essai, un brin nostalgique. C'était tellement mieux avant. C'est une idée que dit le conseil à reprise pour la soumettre à ses camarades de jeu, dont Lucas Fournier, mais rien à voir avec son livre, Jean-Bernard Pouille et Jacques Vallée, avec un bémol cependant, elle a supprimé le tellement, comme si il y avait une part de doute. C'était mieux avant, est-ce bien sûr, dit le conseil. Premier exemple.
Mais une histoire de train, c'était mieux quand on achetait un billet Paris-Lille, par exemple, et qu'avec ce billet, on pouvait voyager indifféremment le lundi, le samedi ou le jeudi, dans le 7h12, le 9h25, le 11h01, le 14h45 et même le 21h47. Les billets non échangeables, non remboursables, échangeables sous condition jusqu'à la veille du départ, échangeables avec retenue, ras-le-bol.
Surtout, c'est injuste, parce qu'on n'est pas tous traités de la même façon.
Les trains sont devenus comme des avions, quoi, mais ils ne vous emmènent pas au-dessus des nuages.
Voilà, on a un spécialiste des trains, monsieur Pouille.
À propos de trains, moi, je regrette les vitres qui se baissent dans les couloirs.
Ah oui.
Ah, ça, c'était quand même formidable, surtout l'été.
On prenait des escarbilles.
Les gens décoiffés, les escarbilles dans l'œil, mais surtout les bonnes odeurs de thym ou de marée quand on arrive à destination. Ça, ça réveillait tout le monde.
Lucas.
C'était mieux avant quand on circulait sur des routes à trois voies. Là. Celle du milieu était celle des intrépides et des rapides. Quelle émotion quand fonçait sur nous un autre bolide qui, comme celui de mon père, doublait à 150 km/h. Mais quelle adrénaline! Maintenant, c'est fini. Je suis sur une deux fois deux voies, je m'ennuie.
Ah, des fois, il y a des gens qui la prennent dans l'autre sens. Hein. Ça met un peu de piment
ouais, parfois,
dans l'existence.
Souvent en Bretagne.
Odile, conseille la nostalgie, alors.
Eh bien, dans les supermarchés, par exemple, quand il y avait seulement 5 ou 6 sortes de yaourts, de desserts lactés, pardon, aujourd'hui, il faut des plombes pour regarder, choisir, comparer les compositions respectives et les prix. Et parfois, face à ces murs entiers de pots de yaourt, une forme de désespoir m'envahit.
Ma pauvre, allez vivre en Corée du Nord.
J'y cours.
Vous aurez beaucoup moins de choix.
Françoise.
Lucas.
C'est la même chose avec le film du dimanche soir, qui était unique sur la première chaîne.
Oui.
Alors, en ce temps-là, la France était divisée en deux. Ceux qui avaient vu le film parce qu'ils avaient la télé et ceux qui auraient bien aimé voir le film mais qui n'avaient pas la télévision. Ça faisait un sujet de conversation unique le lundi matin dans la cantine, dans les cours de récré. Aujourd'hui, avec 248 chaînes, Netflix, les replays, il y a 785 000 sujets de conversation le lundi matin.
Et on ne se parle plus, finalement.
Et on ne se parle plus.
Mmh. Moi, je regrette les autobus à Impérial où l'on pouvait sauter en marche. On restait sur la plateforme pendant tout le trajet et c'était assez agréable.
Et puis l'odeur de crottin et tout ça, c'était sympa.
Oui.
J'avais la même chose. Mais attention, il ne faut pas confondre impérial et plateforme. Hein. Impérial, c'est le toit.
Oui, mais...
Alors sauter du toit, même...
C'est des plateformes.
Des plateformes. Ah oui, on pouvait courir derrière, monter.
Mais c'est des regrets d'enfance, tout ça. Vous n'avez pas des regrets plus récents, je ne sais
pas.
Des regrets de l'an 2000.
Il n'y a pas très 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 longtemps qu'on réfléchit.
Non, mais les autobus à plateforme, c'est quand même très ancien.
Les JB aussi est très ancien.
Je suis très vieux, c'est ça le problème.
Odile.
Eh bien, à vrai dire, c'était mieux quand mes genoux avaient 15 ans et que je dansais le casa-choc.
Moi, je regrette le verre de champagne dans les avions, pour tout le monde.
Parce que, ça moi, existait, ça?
Ah ouais, ouais. C'était un petit luxe, peut-être avec du mauvais champagne, mais c'était un petit luxe qui désangoissait les gens.
Lucas Fournier.
C'était mieux avant parce que les garçons ne se faisaient pas la bise. Voilà, on se serrait la main, c'était viril, c'était parfait, c'était ça. Aujourd'hui, là, même les ministres, les rugbyman, se claquent des bises sans arrêt.
Oui, c'est vrai. Trop de bises, tu la bises. On dit le conseil, un regret.
Quand on allait chez l'épicier, qu'on lui demandait de mettre ça sur le compte, essayez un peu de faire ça avec Madame Monoprix ou Monsieur Carrefour.
Oui, c'est vrai ça.
Oui,
ah, c'est vrai.
C'est
vrai.
Oui. C'était mieux avant. Maintenant, il n'y a plus un seul oiseau dans Paris. Et puis, c'était aussi
c'est
une époque...
Vrai.
Il y a des mouettes.
Oui,
mais
il y a
des mouettes.
Et
des mouettes, des corbeaux et des pigeons estropiés.
Mais... Dans mon jardin, j'ai un couple de perruches qui habitent dans un cerisier.
Oh, c'est magnifique.
Ah, les perruches arrivent.
Ouais, elles sont magnifiques.
Mais ça, c'est le réchauffement climatique.
Bah, c'est possible, mais je trouve bien chez moi, j'en suis ravie.
Et puis, il y avait des
chats. Alors, du coup, je vois plus de merles. Ça, c'est vrai. Les perruches ont chassé les merles.
Oui.
Lucas, c'était mieux avant.
C'était mieux avant les cinémas permanents. Mmh. On arrivait quand on voulait. Mmh. Le film avait commencé depuis 45 minutes, donc on voyait la fin, on connaissait le nom de l'assassin. Donc, on revoyait le début du film, en sachant déjà le nom de l'assassin. Et puis, comme on l'avait loupé une fois, on le revoyait une deuxième fois, mais on connaissait déjà l'histoire. Et on partait à la troisième diffusion. Tandis que maintenant, pour aller voir un film, il faut s'inscrire sur Internet. C'est beaucoup plus compliqué d'aller voir le dernier Tavernier que de prendre un billet Paris-Séoul en avion. Hein.
Je regarde les vieux compteurs électriques quoi, qu'on pouvait trafiquer avec une aiguille ou un film, film photo.
Ah oui.
Et la roue patinait et on payait trois fois moins cher.
On mettait les heures pleines en heures creuses.
Et on avait l'impression d'être rebelles.
Vous dites le conseil, encore des regrets.
Oui, quand Jean Marais ferraillait avec un méchant, un fourbe, un traître, au hasard, dans Capitan, dans Le Bossu, dans La Tour Prend-Garde, qui se faisait légèrement blesser, là, mon cœur de petite fille s'arrêtait de battre, terrassait finalement l'ignoble. Aujourd'hui, les batailles des Avengers, des super-héros, je suis moins fan.
Ah, c'est plus direct, oui. Le cas.
C'était mieux avant parce qu'on ne nous avait pas dit que les lions et les singes étaient malheureux aux zoos ou dans les cirques. Alors on était très contents d'y aller. Et maintenant on est gênés.
On n'y va presque plus d'ailleurs. Jacques.
C'était mieux avant quand il n'y avait pas de code pour entrer dans les immeubles.
Et pourquoi ?
Ben parce que d'abord tu retiens jamais le code et puis tu es dans la nuit. Si tu n'as pas de lunettes, tu ne vois pas. C'est pas éclairé souvent. Et puis toi, tu peux même pas lire si tu l'as marqué sur un carnet, parce que tu es obligé de sortir tes lunettes. Enfin, c'est toute une complication.
Je te conseille le marteau. Un grand coup de marteau dans le digicode et ça s'ouvre.
C'était assez sympathique quand on entendait, y avait encore ça près de la gare du Nord à la fin des années 70, vitrier, vitrier, et qu'on voyait passer l'homme portant ses vitres sur le dos. On se croyait un peu dans un roman de Zola.
Et puis les gens qui chantaient dans les cours.
Ah voilà, oui.
Dans les cours, on avait accès direct sans passer par le digicode.
Voilà, exactement.
Mireille Moulin est passé encore l'année dernière chez, dans le
quartier.
C'est
vous, dans le quartier. Ouais. Oui, parce que les vieux métiers reviennent aussi. Lucas Fournier, c'était vraiment mieux avant.
Bah oui, par exemple, à l'école, oui. Chaque année, on nous faisait une cutie. Et ça, c'était formidable, une cutie. Un docteur venait, il vous faisait deux incisions sur le bras pour voir si vous n'étiez pas malade. Alors, certains tombaient dans les pommes.
C'était pour vérifier le BCG,
oui,
non
c'était oui, pas ça. Oui, c'est ça, c'est pour vérifier positif le BCG. Ou négatif, oui. Positif ou négatif. Alors, certains tombaient dans les pommes, d'autres non, mais c'était un moyen de montrer qu'on était brave et courageux.
C'était un petit rituel.
Voilà,
on
maintenant
le
c'est.
Fait plus,
mais
maintenant.
Non, c'est fini, hein. C'est triste. Hein.
C'était mieux avant quand les choses duraient, qu'on pouvait les réparer.
Les amours, tout.
Quand on servait des objets toute une vie. C'est avant les modes, l'obligation de faire attention aux marques, de changer d'habits sans cesse. Moi, j'aime garder mes vieilles chaussures, mes vieux chaussons, mes vieilles vestes d'intérieur, mes vieilles casquettes.
The deal.
Oui, alors c'était bien quand on allait pendant les vacances chercher le lait à la ferme, dénicher les œufs dans la paille, regarder naître les petits cochons et téter les veaux.
Caroline à la ferme, bonjour.
Il faut croire que
Martine
c'était vraiment
en
mieux.
Vacances.
Il faut croire que c'était vraiment mieux puisqu'on y revient.
Mais c'est marrant parce que moi j'ai l'impression de ne pas avoir vécu la même époque que vous. J'ai pas du tout tous ces regrets, Lucas.
Eh bien, c'était mieux avant parce qu'à la gare de Béziers, une voix virile vous annonçait « Attention, attention, le train en provenance de Narbonne va arriver en gare de Béziers, direction Montpellier. Éloignez-vous du bord du quai. » Alors, c'était traîné, c'était Brassens qui était là. C'est... Aujourd'hui, vous avez une voix d'intelligence artificielle, paraît-il, très féminine, qui vous dit « Le TGV 35 847 en provenance de Narbonne va entrer en gare. Voilà.
Oui, ça c'est vrai.
Montauban, tout le monde dit ça, les bêtes et les gens.
Voilà. Et bien voilà.
Jacques Vallée.
C'était mieux avant quand il y avait des grands feux de bois dans les cheminées, quand on apprenait l'art du feu.
Au secours
dans ton château. Oui.
La vie au temps de Jacques Vallée.
Non, mais il
raconter aux petits.
Il fallait apprendre comment, avec deux petits morceaux de bois, le feu pouvait durer toute la journée.
Lorsqu'on voulait, il y a Koh-Lanta pour ça voulait, maintenant.
Exactement.
Lorsqu'on voulait faire chauffer une casserole d'eau, on remettait un peu de bois, on rapprochait le bois et ça faisait des flammes.
Oui.
Donc il y avait une science de retenir le feu, de l'activer.
Mais il a raison, Lucas Fournier. Tout ça revient grâce aux télé-réalités, finalement.
Oui, mais même
toute
avec,
cette nostalgie.
Pour les légumes.
Oui.
Les légumes qui disparaissent quand même. Et ça, c'est dommage. Parce
ça
délicieux.
Revient, les
topinambours, crônes, les rutabagas,
les
topinambours. Ça revient magistralement.
On en voit dans les marchés, bien sûr.
Oui, mais personne n'en achète.
Mais si,
moi j'en achète. Il y en a. Vous ne faites pas les courses, à mon avis.
Là. Si, je l'ai fait, mais je ne fais que le poissonnier, moi. Et le...
Ah, bah,
ça explique beaucoup.
Oui, évidemment. On comprend mieux. Oui, Neil.
Alors, peut-être était-ce mieux avant quand on pouvait croiser au Quartier Latin Sartre ou Beauvoir, Duras ou Causserie, Sagan ou Camus. Aujourd'hui, qui ?
Je ne sais pas. Ça jette un froid.
Oui, manifestement, oui.
Lucas ?
Je me suis regardé tout nu dans la glace, comme chaque matin, et je me suis dit, peut-être que c'était mieux avant, mais je n'ai pas gardé de photos de l'époque.
Vous voyez, Odile Conseil, vous avez semé comme ça, lancé un petit sujet d'inventaire qui se révèle être une grande chose.
Une grande vague de nostalgie, manifestement.
Ah,
c'est pas de la nostalgie.
Ah bah non. Si,
c'est
quand même.
C'est la recherche
même.
Du temps perdu, c'est... absolu.
Oui, voilà. Absolument. C'est du Proust plus.
Mais Proust, c'est quelqu'un de bien, quand même.
Ouais.
When somebody thinks you're wonderful, what a difference in your day. Seems as though your troubles disappear like a feather in your way. When somebody thinks you're wonderful, tells you with a smile so sweet, what little stones you'll step upon just to melt underneath your feet.
Le wonderful Brian Ferry. Vous écoutez Des Papous dans la tête sur France Culture, au micro Françoise Tressard. Et la bande des Papous du samedi soir, à suivre une page de pub et la textée de Jacques Jouet pour Eva Almassy et Patrick Beignet. C'est une pub, oui, mais différente, culturelle forcément, et décalée. Imaginez par Patrice Comon avec des répliques pour Jeanne Carillon, Hervé Le Tellier, Eva Almassy. Piano et chanson, Gabriel Godard. C'est parti.
Vous adorez regarder les grandes séries télé américaines.
Mais votre série préférée, plus dépaysante que Lost, plus violente que 24 heures, c'est Candy, dont la saison 1 a battu des records d'audience.
Alors ne manquez pas le premier épisode de la nouvelle saison.
Soyez candidat pour Candy 2, réalisé par Air Volt Senior et produit par les studios Vernet Bros.
Volt, c'est le metteur en scène qui aligne les succès comme
Zadig dans le métro, l'énorme micro-méga Sick Park, Desperate Cunégonde.
Et l'animation Kung Fu Pangloss et la pucelle de la Nouvelle-Orléans.
Volt, c'est la garantie de rebondissements éblouissants et de dialogues étincelants.
D'images cyniques et de second rôle cocasses.
Candy 2, tourné en extérieur, vous emportera de la Bulgarie à l'Argentine, du Portugal au Paraguay.
Sans oublier pour les scènes capitales, Lisbonne ou Buenos Aires.
Les décors sont naturels, sauf bien sûr pour l'Eldorado.
Buzz sur cette série déjà culte, Volt a pété les plombs. Candy 2, plus que des aventures, c'est une cascade de mésaventures.
Le fidèle valet Cacambo peut-il trahir Candy?
Pangloss retrouvera-t-il sa paquette? Ou sera-t-il rependu?
Quel tremblement de terre ou quel tsunami pour illustrer la charité divine?
La fraîche et grasse Cunégonde va-t-elle perdre sa deuxième fesse?
Combien d'amants pervers trousseront son lin blanc pour abuser de sa probité candide?
Candy 2, c'est une histoire de crime et de sexe, de fric et de vol, mais surtout de scoumoun.
C'est Tintin au pays des injustes et des intolérants.
Une odyssée dans la mouise.
Un monde d'inquisition et de fanatisme.
D'auto-dafés et d'auto-tamponneuses.
Espérons qu'à la fin de la saison 2, Candy retrouvera l'Éden de son jardin et son potager bio.
Car la morale de Candy 2, c'est pas celle d'Homeland, c'est celle de Jardiland.
Mieux vaut souvent se taire et ne rien dire du tout. Un mot de trop, c'est trop à tous les coups. Si tu n'es pas Voltaire, c'est fou ce qu'il tolère. Et sans colère, il laisse braire les fous. Dieu soit loué, loué, mais plutôt en silence. Il est doué, doué pour la tolérance. Monsieur a roué et roué tout court quand il pense. Faut pas jouer avec la violence. Dans son fauteuil, Voltaire joue à Candide Crush. Évidemment, dans le rôle de la blonde, on a la Cunégonde de Leibniz. L'harmonie universelle tourne comme un lave-vaisselle. Mieux vaut penser le rien que de penser le tout. Lit-on Candide ou bien le Parménide? Le sage en son jardin relira l'Énéide. Dis-donc, dit-on, ne pleure que pour vous.
Dernière séquence de ce numéro des Papous dans la tête sur France Culture, la textée de Jacques Jouet, une sorte de dictée mais pas scolaire, puisque les mots dictés ne seront pas ceux du texte choisi. Quant aux pseudo-élèves, Éval Massier, Patrick Beignet, eh bien ils écriront ce que les consignes de Jacques Jouet leur suggéreront. À chacun sa personnalité, son imagination, leurs textes ne seront pas les mêmes, mais il devrait y avoir entre eux, avec celui choisi par Jacques Jouet, une certaine parenté. Première partie, votre feuille de route, Jacques Jouet. Combien de consignes à peu près?
Il y en a 8.
Oui, c'est bien, c'était ma demande. Je vous remercie de l'avoir exécuté. Allez, on découvre.
La première consigne concerne le titre. Vous devez titrer en alcool et en poésie tout à la fois.
Ah oui, c'est des degrés, c'est ça, non? Enfin, je me permets de poser une question, moi je n'interviens pas.
Je peux pas en dire davantage. Oui, vous devez titrer bien. En alcool et en poésie tout à la fois. Ouais. C'est facile.
Sûrement, quand on ne le fait pas, Miné. Ensuite.
Le premier vers du poème est un alexandrin passablement ferroviaire qui donne un bon conseil négatif à celle qui ne part pas.
Ça fait image, hein, Clémentine?
Ah oui. On s'y voit déjà.
Oui.
Le deuxième vers du poème enfonce le clou du conseil négatif.
Ouais.
Pas compliqué.
Non, j'ai pas l'impression, mais je le fais pas, moi.
Eva
le rinquin. Une remarque.
Toujours dans un alexandrin.
C'est pas précisé. Ça n'est pas précisé, donc vous ferez comme vous voudrez. Le troisième vers du poème passe à la dimension positive du conseil et c'est là que l'alcool intervient.
Ah oui, au fur et à mesure de l'ivresse, c'est ça? Tout devient formidable.
Je n'ai pas le droit d'en dire davantage.
Non.
Quatrièmement, le quatrième vers du poème est un alexandrin passablement ferroviaire encore. Cinquièmement, le cinquième vers se complaît brièvement à la métaphore alcoolique.
Oui.
Sixièmement, le sixième vers file la métaphore précédente en y ajoutant une comparaison empruntée au corps de la personne qui est conseillée.
Qui est conseillée?
À qui on donne le conseil.
Ah oui, oui, oui.
C'est pas très compliqué, vraiment.
Non, oui, c'est trop facile.
Excusez-moi, mais enfin. Septièmement, et c'est la huitième consigne puisque j'ai compté le titre comme la première.
Ouais.
Les septième, huitième et neuvième vers du poème, assez brefs, creuse cette comparaison, sachant que les huitième et neuvième vers doivent rimer entre eux.
Ça va, ça paraît très sympathique à faire, non? Qu'est-ce que vous en pensez, Patrick Beignet?
Ça me paraît très sympathique.
D'accord, Éval Massier.
J'ai un tout petit vocabulaire alcoolique. Hein, c'est
Bon, peut-être Patrice Delbourgois pourra vous glisser des tuyaux.
Vous couperez ça, s'il vous plaît.
Le cirrhose, elle a vécu ce que vivent les cirrhoses.
Amusez-vous bien.
Santé.
Patrick Beignet, Éval Massier, ça s'est bien passé cette écriture de la rédaction de ce que suscitait dans votre tête la feuille de route de Jacques Jouet?
Je ne m'y connais vraiment pas en alcool, je ne bois jamais d'alcool.
Il n'y a pas que l'alcool dans la vie, dans ce poème,
il y a le vin aussi.
Oui, voilà le vin.
Alors vous allez reprendre vos consignes une par une et on va voir ce que ça donne.
Voilà, la première consigne concerne le titre.
Oui.
Vous devez titrer en alcool et en poésie tout à la fois.
Alors, Éval Massier, le nombre de degrés, la poésie.
Vraiment, j'ai séché là-dessus. Alors, comme on est dans les trains,
j'ai
marqué le 20h20. Comme ça, j'ai deux fois 20, ça rime, c'est de la poésie, et puis c'est homophonique, voilà.
Ah oui, et c'est du 20 degrés, c'est déjà assez costaud, non?
Ah, c'est plus du vin, là.
C'est plus du vin, c'est de l'alcool.
C'est un vin cuit.
Oui, il y a un petit rapport, point de jonction.
Ouais.
Ouais, bon, d'accord. Et avec Patrick Beignet, ça donne quoi?
Ça donne Anna et son cognac.
Anna et son cognac.
C'est très poétique, il n'y a pas le nombre de degrés.
Oh ben, il n'y a pas forcément besoin du nombre de degrés.
C'est stupéfiant parce que j'ai voulu faire d'abord Anna et sa vodka en pensant à une certaine Anna à cause du train. Oui. Mais je suis partie dans une autre direction.
Bon, alors chacun a ses rails qu'il suit. Et ensuite?
Le premier vers du poème est un alexandrin passablement ferroviaire qui donne un bon conseil négatif à celle qui ne part pas.
Alors, Eva Almalsi.
Inutile d'agiter votre beau mouchoir.
Conseil à celle qui ne part pas.
Oui.
Pas forcément
alors,
négatif, avez-vous
là,
dit.
On est extrêmement proche du
c'est
poème.
C'est vrai.
Ah oui, là.
Ah oui. Et pourtant, vous n'avez rien deviné, Eva.
Non.
Je suis consterné par la proximité.
Ah
bah
oui, mais c'est parce que vous avez texté merveilleusement. On va voir si Patrick Beignet est aussi proche.
Mais moi, j'ai été me promener dans la cervelle d'Eva.
Ah bon? Et donc?
Non, ne te jette pas sous le train, belle Anna.
C'est encore plus radical.
Mais j'aurais pu faire la même chose.
Mais stupide. Tu ne l'as pas fait.
Mais je ne l'ai pas fait.
Et tu le regrettes. Non, ensuite.
Non, là, c'est un début tragique qui ne concerne pas ce
poème.
Mais bon. Le deuxième vers du poème enfonce le clou du conseil négatif.
Alors, ce mouchoir,
votre beau mouchoir brodé.
Ah bah oui, c'est très bien. C'est toujours plus joli d'agiter un mouchoir brodé qu'un mouchoir à carreaux, non?
Bon.
Oui, là, elle va gagner du temps, là. Mais c'est bien, ça va,
un petit peu.
Bah, j'ai enfoncé le clou.
Alors, avec Patrick, elle ne s'est pas jetée sur les rails, mais...
Non. Pas sous la locomotive.
Il y avait donc une locomotive.
Oui, ça renchérit bien. Toujours une proximité ou pas de proximité avec le texte original.
Oh, c'est quand même pas mal. Hein.
Pas mal.
Ouais,
les
oui,
deux.
Vous verrez.
Oui.
Le troisième vers du poème passe à la dimension positive du conseil. Et c'est là que l'alcool intervient.
Eva,
buvez un coup et séchez vos larmes.
Bah oui, et en plus elle a un mouchoir pour le faire.
On va mieux dire « séchez vos larmes » vu un coup, mais bon. Non, dans cet ordre-là
ou... Non. Trouvez ça plus joli?
Non, mais je préfère me sécher mes larmes avant de boire. En
ah
général,
oui,
mais...
d'accord. Oui, c'est
non,
vrai.
Non, c'est le
vrai.
Vin. D'abord, je voulais, en plus, que ce soit le vin même qui assèche les larmes, comme une relation de cause à effet. Mais j'avais du mal à
concilier les deux. Patrick Beignet.
Moi, je suis beaucoup plus simple et plus direct. Bois plutôt un bon cognac, Anna.
C'est mieux que de se jeter sous la locomotive, c'est vrai, vous avez raison.
Mais tout ça est très proche, hein, c'est très bien. Le quatrième vers du poème est un alexandrin passablement ferroviaire encore.
Alors, Eva Almalsi.
Nul train qui ne revient, nulle peine qui ne s'oublie.
Oui, bon, il y a le train, il y a presque le bruit des roues dans le rythme du verre, non?
Je voulais exactement
N'exagérons pas, quand même.
J'aurais aimé, s'il ne fallait pas conseiller, juste alexandrin ferroviaire, j'aurais fait ça.
Ah voilà, oui.
Ça y était.
Oui.
On pourrait appeler ça une variante.
Patrick Beignet.
Anna, pas sur les rails. Anna, pas sous le train.
Il va la sauver. Il va y arriver.
Je n'insiste pas, mais c'est là aussi le rythme du train.
Ah, exactement. Oui, on entend la locomotive de Santa Fe. C'est un côté far west.
Anna Karenine ne se passe pas.
Ou Anna Moscou, Karenine, oui, évidemment.
Moscou,
oui.
En garde,
ah, vous
Moscou.
Pensez à Anna Karenine, je ne vous avais pas vu. Après.
Le cinquième vers se complaît brièvement à la métaphore alcoolique.
Eva.
Alarmes amères du vin doux. Enfin, c'est plus un proverbe qu'une métaphore.
Alarmes amères.
Alarmes amères du vin doux. C'est une question.
Mmh. Ah oui.
Ou une recette.
Oh, c'est très beau, hein. Alarmes amères du vin doux.
C'est très très joli, oui.
Ouais. On voit bien que vous ne buvez pas.
Parce que vous ne l'auriez pas pris doux, vous, le vin, c'est ça. Vous auriez pris un petit blanc sec.
Ça n'est pas professionnel.
Et vous, Patrick Beignet, qu'est-ce que ça donne?
La vie est un flacon de cognac.
Ouais.
Voilà une métaphore.
Ouais, c'est oui. On ne sait pas trop si le cognac est agréable, finalement. Oui.
Ben, si la vie n'est pas agréable, peut-être.
Si, voilà, mais sûrement.
Ne vous énervez pas.
Jacques Jouet, est-ce qu'un des deux textes est encore plus proche du vôtre?
Non, ils sont vraiment sur le
fil. Tous les deux.
Oui, alors là,
Ben, ce qui prouve que c'était une bonne feuille de route.
On va avoir du mal à les départager, je pense. Le sixième vers file la métaphore précédente en y ajoutant une comparaison empruntée au corps de la personne conseillée.
Ah, une dame Jeanne serait trop ou une fillette suffit.
Une dame Jeanne, c'est quel volume ?
C'est 10 litres.
Ah, c'est très,
ça,
très
ça ferait une très très grosse dame.
Ouais. Et la fillette, Patrice Delbourg, c'est...
La fillette, c'est souvent 2 litres.
Oh non.
Ah, c'est plus petit que...
C'est 50 centilitres et le carafon, ah, oui. 25.
Bah, moi, je me la fais tailler sur mesure.
Mais j'avais pas envie de la comparer à un carafon, quand même.
Patrick Beignet, votre texte à vous.
Eh bien, dans mon texte, le sixième vers s'enchaîne.
Oui.
Au cinquième, dont oui. Je rappelle...
Le cinquième.
La fin, oui. La vie est un flacon de cognac de la douce couleur de ta peau, Anna.
Oh, c'est trop beau, ça.
Non, c'est pas beau, c'est emprunté. Le corps de la personne conseillée.
Un peu cuivré, c'est pas mal.
Exquis.
Les septième, huitième et neuvième vers, là, ça fait un lot, là. Assez bref, creuse cette comparaison, sachant que les huitième et neuvième vers doivent rimer entre eux.
Voilà. Et pas le septième, donc, Eva.
Pour noyer son chagrin quand la coupe est pleine, le visage de la dame rosite à peine.
Pleine, peine, c'est une rime parfaite, on dirait.
C'est bien, c'est bien.
Très bien. Hein? Septième, huitième, neuvième,
oui,
Patrick.
Oui, ne reculant devant aucun effort, j'ai fait rimer aussi le septième avec le huit et le neuvième vers.
Oui, oui, il va vous dire que c'était une facilité, Jacques Jouet.
Pas du tout,
non. Interdit.
Le fait que huit et neuf riment n'impliquait pas que le septième ne rime,
ne rime pas.
Ton corps, flacon de cognac, ton corps, bel armagnac, levé dans le hamac.
Ah si, c'est pas de la poésie, ça, c'est une pure. Alors moi, j'aimerais bien qu'on réécoute vos textes, vos poèmes, qui semble assez superbe, non? Qu'on les réécoute sans les interrompre.
On va les réécouter avant de commenter. Hein.
Allez, Eva Almassi.
Le 20h20, inutile d'agiter votre beau mouchoir brodé. Buvez un coup et séchez vos larmes. Nul train qui ne revient, nulle peine qui ne s'oublie. Alarmes amères du vin doux, une dame Jeanne serait trop... Où une fillette suffit pour noyer son chagrin quand la coupe est pleine, le visage de la dame rosit à peine.
C'est joli.
Oh, c'est pas mal, oui.
C'est pas mal. Patrick Beignet.
Anna et son cognac. Non, ne te jette pas sous le train, belle Anna. Non, pas sous la locomotive. Bois plutôt un bon cognac, Anna. Anna, pas sur les rails. Anna, pas sous le train. La vie est un flacon de cognac de la douce couleur de ta peau, Anna. Ton corps, flacon de cognac. Ton corps, bel armagnac, levé dans le hamac.
Oh, ça c'est... C'est un homme amoureux qui veut sauver Anna, c'est magnifique.
C'est ce qui s'appelle Vronsky. Se mettre martel en tête.
Alors Jacques Jouet, qu'est-ce que vous avez tenté de leur texter?
Eh bien, c'est un poème de Robert Desnos.
Oui.
Un très beau poème de Robert Desnos, mais qui n'est pas plus beau que les leurs. Hein.
Non,
ça. Ben,
j'imagine.
Très poignant, d'ailleurs, parce que quand on imagine Robert Desnos montant dans un train
à
Compiègne, c'est assez terrible. C'est un poème de 1942 qui s'intitule « Couplet du verre de vin », tout simplement.
Oui.
Quand le train partira, n'agite pas la main.
Ah.
Donc on était proche. Ni ton mouchoir, ni ton ombrelle. Mais emplis un verre de vin et lance vers le train dont chantent les ridelles la longue flamme du vin. La sanglante flamme du vin pareille à ta langue et partageant avec elle le palais et la couche de tes lèvres et de ta bouche.
C'est somptueux. Hein. Il y avait le hamac chez Patrick Beignet, hein, la couche chez Desnos.
Oui, ben, je pense qu'il l'avait subodoré.
Oui, non, il est très fin, Patrick Beignet. Qu'est-ce qu'on peut faire comme commentaire, Patrice Minet, sur cet exercice que je trouve très réussi, parce que entre leurs trois textes, il y a vraiment connivence, ressemblance, et en même temps, chacun sa personnalité.
Heureusement.
Oui. Des papous dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par Françoise Trossard avec Anne de Pelchin et Jean-Louis Deloncle. À podcaster sur franceculture.fr pour une réécoute quand vous le souhaitez. On se retrouve samedi prochain à 20h sur les ondes ou à 20h30 au studio 104 de la Maison de la Radio pour fêter les mauvais genres. Au revoir, belle fin de soirée sur France Culture.
Quoi?